terriblement syphilitique malgré sa maladie des poumons. Musil, syphilitique. Beethoven. Ah, Beethoven. On s'est demandé si la surdité de Beethoven n'était pas due à la syphilis. Pauvre Beethoven, on lui a trouvé a posteriori tous les mots. Hépatite, cirrhose alcoolique, syphilis. La médecine s'acharne sur les grands hommes, c'est certain. Sur Schumann, sur Beethoven. Savez-vous ce qu'il a tué, monsieur Mann? Ce que l'on sait aujourd'hui de sources plus ou moins sûres? Le plomb. Le saturnisme. Oui, monsieur. Pas plus de syphilis que de beurre en broche, comme on dit en France. Et d'où venait ce plomb, je vous le donne en mille? Des médecins. Ce sont les odieux traitements absurdes de ces charlatans qui ont tué Beethoven. Et qui l'ont sans doute aussi rendu sourd. Terrifiant, vous ne trouvez pas? Je me suis rendu deux fois à Bonn. Une première fois quand j'étais étudiant en Allemagne, et une seconde fois plus récemment pour donner une conférence sur l'Orient de Beethoven et les ruines d'Athènes, à l'occasion de laquelle j'ai retrouvé le fantôme de mon ami Bilger. Mais c'est une autre histoire. Connaissez-vous les appareils acoustiques de Beethoven de la Beethoven House à Bonn? Il n'y a rien de plus effrayant. De lourds marteaux, des boîtes de conserve en manchés. On a l'impression qu'il faut deux mains pour les tenir. Ah, voilà l'opus 111. Au début, nous sommes toujours dans la sonate. Pas encore d'adieu. L'ensemble du premier mouvement est construit sur les surprises et les décalages. La majestueuse introduction, par exemple. On a l'impression de prendre un train en marche, d'avoir manqué quelque chose. On entre dans un monde qui a déjà commencé à tourner avant notre naissance. Un peu désorienté par la septième diminuée. Les colonnes d'un temple antique, c'est forti. Le portique d'un univers neuf. Un portique de 10 mesures, sous lequel nous passons au do mineur, ensemble la puissance et la fragilité. Courage, allégresse, grandiloquence. Les manuscrits de la 32e se trouvent-ils aussi dans les salles Bodmer à Bonn? Docteur Mann, je sais que vous l'avez rencontré, le fameux Hans Conrad Bodmer, le plus grand collectionneur beethovenien. Il a patiemment tout rassemblé, tout acheté, entre 1920 et 1950, les partitions, les lettres, les meubles, les objets les plus divers. Il en remplissait sa villa zurichoise et montrait ses reliques aux grands interprètes de passage, les Backhaus, les Cortot, les Casals. À grands coups de francs suisses, Bodmer a reconstitué Beethoven, comme on reconstitue un vase antique brisé. Recoller ce qui avait été éparpillé pendant près de 100 ans. Vous savez quel est celui qui m'émeut le plus parmi tous ces objets, Dr. Mann? Le bureau de Beethoven? Celui que possédait Stefan Zweig, sur lequel il écrivit la plupart de ses livres, et qu'il a fini par vendre avec sa collection de manuscrits à son ami Bodmer? Non. Son écritoire de voyage? Ses sonotones? Non plus. Sa boussole. Beethoven possédait une boussole. Une petite boussole de métal, en cuivre ou en laiton, qu'on voit dans une vitrine à côté de sa canne. Un compas de poche, rond avec un couvercle, très proche des modèles d'aujourd'hui, me semble-t-il. Un beau cadran en couleur avec une magnifique rose des vents. On sait que Beethoven était un grand marcheur. Mais il marchait autour de Vienne, en ville l'hiver et dans la campagne l'été. Pas besoin de boussole pour quitter Grinzing ou trouver Laugarten. Est-ce qu'il emportait ce compas au cours de ses excursions dans la forêt viennoise, ou lorsqu'il traversait les vignes pour rejoindre le Danube à Klosterneuburg? Avait-il envisagé un grand voyage? L'Italie peut-être? La Grèce? Est-ce que Hammerburgstall l'avait convaincu de voir l'Orient? Hammer avait proposé à Beethoven de mettre en musique des textes orientaux, les siens, mais aussi des traductions. Apparemment, le maître n'y a jamais consenti. Il n'y a pas de leaders orientaux de Beethoven,